Il y a deux semaines, nous fêtions l'épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu portée à la connaissance de toutes les nations par le truchement symbolique des mages. Avec les mots d'Isaïe, debout, resplendis, nous pourrions traduire autrement, lève-toi que brille la lumière, nous étions encouragés à rayonner de l'Évangile par toute notre vie, comme l'étoile brillant au-dessus de la crèche. Pourtant, nous avons bien conscience que notre mission de baptiser ne peut pas se réduire à un prosélytisme volontariste. Notre annonce ne peut être que le fruit de la volonté du Seigneur. C'est lui l'acteur premier de la mission. C'est lui qui nous donne d'éclairer les autres en vérité. Bien plus, nous ne pouvons pas donner la voix à proprement parler. Sans doute parmi nous, des conjoints, des parents, des grands-parents font cette expérience souvent douloureuse de voir ce qu'ils aiment ne pas aimer le Christ, ou du moins lui être indifférent. La foi appartient au mystère d'une relation entre Dieu et une personne à qui seul revient d'accueillir ou pas l'appel divin. Ainsi que le souligne Benoît XVI dans sa première encyclique, Dieu est amour. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Notre tâche de disciple missionnaire est de faciliter cette rencontre. Dans la parole entendue aujourd'hui, je voudrais relever trois points communs aux appels pourtant différents de Samuel et des premiers apôtres, car ces trois points peuvent nous aider dans notre mission. Ces trois points sont une demeure, un grand frère, une grande sœur, une transformation. La demeure. La rencontre avec Dieu suppose un lieu favorable. La première lecture nous parle du temple du Seigneur à Silo. Avant la construction du temple de Jérusalem par le roi Salomon, la tente de la rencontre qui abrite l'arche d'alliance est remplacée par un temple à Silo. Y venir faire des sacrifices avec l'aide du prêtre, c'est inviter Dieu à se rendre présent et répondre oui à sa proposition d'alliance. Dans l'Évangile, ce que recherchent les deux disciples de Jean le Baptiste est le lieu privilégié pour être avec Jésus. Où demeures-tu ? L'évangéliste Jean ne nous apporte pas davantage de précision, si ce n'est qu'il vienne où il demeurait. Or, dans le langage de l'Évangile, voir, c'est croire. Le caractère évasif de l'indication sur la demeure de Jésus met en valeur le plus important, Jésus lui-même. Pour nous, et pour toute personne qui s'engage dans l'aventure de la foi, cela a deux conséquences. La première est qu'un lieu n'a rien de saint en lui-même, pas même Notre-Dame de la Couture. Il ne l'est qu'en fonction de la présence de Dieu, ce qui explique qu'on puisse désaffecter des églises, voire même les détruire, comme cela nous attriste beaucoup, quand ces églises n'accueillent plus celui qu'elles sont censées abriter. La deuxième conséquence est que nous avons à prendre garde à faire de nos cœurs des lieux favorables à la rencontre de Dieu. Et donc aussi, ceux qui nous sont proches, à pouvoir faire en eux de la place pour Dieu. Un moment de silence dans la vie quotidienne. Une balade, sans avoir à beaucoup parler. Un passage de quelques minutes dans une église. Juste un peu de calme et de paix. Cette quête de Dieu, cette quête de la rencontre avec Dieu, est souvent orientée par l'accompagnement d'un grand frère, d'une grande sœur dans la foi. De ce point, le grand frère, la grande sœur. Dans les deux récits de vocation que nous avons entendus, il se trouve une personne pour aider à comprendre la paix. Élie est un vieillard, quasi aveugle, mais ses sens spirituels sont affinés. En témoigne sa compréhension de l'appel de Dieu adressé au jeune Samuel qui, lui, est un parfait novice dans la vie spirituelle. Élie a pu acquérir la science du discernement qui lui permet à la fois de reconnaître la sincérité de l'enfant. Samuel ne fait pas de blague quand il vient voir Élie, il dit, mais le voici. Et cette science du discernement permet également à Élie de reconnaître la façon dont Dieu se révèle. Son expérience se manifeste par le conseil donné, parle, conserve, écoute. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste est un rabbi, un maître, ainsi que le marque le fait d'avoir des disciples. Il est toutefois capable de laisser partir ces derniers afin qu'ils puissent avancer sur le chemin de la vie éternelle en suivant un nouveau rabbi. Jean-Baptiste montre à ses amis qu'importe avant tout l'attention au signe d'en haut. Et ce rabbi n'est pas n'importe qui. Ce nouveau rabbi, c'est l'agneau de Dieu. Ainsi, si la foi ne se transmet pas, il en est autrement de la sagesse qui permet de discerner la présence de Dieu. Cette sagesse se double d'enthousiasme chez André. L'évangéliste nous raconte avec sobriété comment André, après sa rencontre avec Jésus, ne peut pas s'empêcher de communiquer la bonne nouvelle, en premier lieu à son frère. Dieu ne lui demande pas pour l'instant de se lancer sur les routes de l'Empire romain pour évangéliser des inconnus. Et nous non plus, nous n'avons pas à chercher bien loin les personnes avec qui partager notre joie de croire. Un certain nombre d'entre vous a lancé des invitations pour le parcours alpha paroissial ces dernières années. Et vous avez pu constater combien cela avait pu toucher d'une manière ou d'une autre vos invités. André ne cherche pas non plus à persuader son frère de quoi que ce soit. Il dit simplement ce qui leur est arrivé de bien à son condisciple et à lui. Nous avons trouvé le Messie. Si son frère Simon l'accompagne pour aller rencontrer Jésus, c'est sans doute qu'il y avait chez lui un terrain bien préparé pour cette rencontre. Terrain bien préparé par Dieu lui-même. N'ayons donc pas peur de dire ce qui nous rend heureux et rien de plus. En tout cas, dans un premier temps. Au Seigneur de donner la grâce d'un cœur qui écoute. À notre interlocuteur de décider d'entendre ou pas l'appel et de se laisser transformer par lui. Car c'est le troisième point que je voudrais aborder avec vous. Il y a bien transformation dans tout appel que nous adresse le Seigneur. La rencontre avec Dieu ne laisse jamais rien. C'est une évidence. Juste après sa réponse à l'appel du Seigneur, on dit de Samuel qu'il grandit. Quant à Simon, il lui est donné un nouveau nom, un nom supplémentaire, comme pour renouveler son existence en lui donnant son orientation décisive. Simon devient Simon Pierre, celui sur qui Jésus bâtira son Église. Il faudra du temps pour que ce programme se réalise. Il faudra du temps pour que Pierre accepte cette mission que lui confère son nom nouveau. Parfois, la transformation de Dieu opère en nous, que Dieu opère en nous peut bouleverser nos vies et bousculer nos proches. À nous qui, comme Élie, Jean-Baptiste ou André, pouvant être acteurs, spectateurs de la rencontre entre une personne et son Seigneur, il nous est demandé à la fois de respecter infiniment le cheminement propre de cette personne et, si besoin, de l'aider à pouvoir partager son expérience d'alliance avec elle. Frères et sœurs, notre mission n'est pas de donner la foi, mais d'accompagner nos proches vers la foi et dans la foi. En tout cas, il ne nous est pas possible de vivre notre foi seul. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, il est plus beau d'éclairer que de briller seulement.